Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, faite à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et toujours disponible en librairie. Où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 8 de cet ouvrage. Ce chapitre est intitulé « Culture et finitude ». Alors, je rappelle une phrase sur laquelle nous nous étions quittés lors de la dernière émission, une phrase que je tire du film « Little Buddha » de Bernardo Bertolucci, phrase attribuée à Bouddha, hein. « Si la corde est trop tendue, elle casse, hein. Si elle ne l'est pas assez, elle ne rend aucun son ». Donc vous voyez qu'entre l'exaltation d'une part et la banalisation d'autre part, on ne voit pas du tout de solution. Hein. Prenons le cas de la finitude de la vie. Le sentiment d'une insuffisance de la vie par rapport à une attente profonde qu'elle nous inspire, c'est le problème fondamental. Si on s'accommode de la vie telle qu'elle est, on se banalise et on renonce à l'exigence. Mais si on s'exalte dans l'attente d'autre chose, on refuse la vie telle qu'elle est, et en voulant voler, on va perdre le contact avec la terre. Ici encore, les mythes et les images peuvent nous être d'un grand secours. Par exemple, Ante, A-N-T-E, était le fils de la terre, et il reprenait des forces toutes les fois qu'il touchait la terre, au point que Héraclès, Hercule, pour triompher de lui, a été obligé de l'enserrer entre ses bras et de l'élever en l'air pour qu'il ne touche plus la terre. Donc, l'homme, il est à la fois Icar, c'est-à-dire l'archétype de l'exalté qui va vers le soleil et qui ensuite est châtié pour avoir voulu trop l'approcher, d'où la submersion et la noyade. Et puis, il est aussi Hanté, l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'avoir les pieds sur la terre. Donc, l'arbre et l'oiseau se partagent notre être, dit René Char. Hein. L'arbre qui vole, mettons la figure de l'exalté, et l'arbre qui est enraciné, l'arbre enraciné, donc comme hanté dans la terre, hein, et l'oiseau vole, donc figurant l'exalté. Donc j'aime bien ces lapsus, ils sont peut-être révélateurs. Alors, je dirais que l'homme est à la fois impatient et négligent. Hein. Il commence par l'impatience, le propre de l'exalté, et il finit par la négligence ou la paresse, qui est le propre du banalisé. Kafka dit très bien dans ses méditations sur le péché et le vrai chemin, il dit la chose suivante, c'est un aphorisme qui est très très profond. « Il y a deux péchés capitaux humains d'où les autres dérivent, tous, hein, l'impatience et la paresse. » Ils ont été chassés du paradis à cause de leur impatience, ils n'y rentrent pas à cause de leur paresse. Mais peut-être n'y a-t-il qu'un seul péché capital, l'impatience. Ils ont été chassés à cause de leur impatience, ils ne rentrent pas. Donc, est-ce qu'on peut faire le deuil de l'impatience? Comment ne pas la sentir, cette impatience? La vie, dit encore René Char, commencerait par une explosion et finirait par un concordat. C'est absurde. La vie, évidemment, est faite de concessions, je dirais, de concessions à perpétuité. Hein. Et comme le petit poussé se met derrière lui ses petits cailloux, ainsi nous laissons derrière nous tout ce que nous avons manqué. Nous portons le deuil de nos illusions, hein. Nous abritons les tombes de nos rêves. Je suis le tombeau vivant, est-ce que c'est vraiment vivant, je ne sais pas, de mes rêves perdus. Alors j'aime bien inverser les proverbes, on dit les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Et moi je dirais, les gens sont pleins de cimetières irremplaçables, vous voyez. Je suis un cimetière, c'est-à-dire je suis un tombeau, le tombeau de ce à quoi j'ai cru et qui ne s'est pas réalisé. Baudelaire dit « Je suis un cimetière abhorré de la lune », vous voyez, l'homme cimetière. Alors, on peut refuser, c'est ce que fait l'exalté. Je rappelle que toute notre réflexion porte sur le doublé exaltation-banalisation et la solution à trouver face à ce problème. Alors, on peut refuser de s'en accommoder, de s'accommoder de cette finitude, et on peut avoir alors le désir même de mourir. Voyez ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, « Mourir de ne pas mourir, je meurs de ne pas mourir ». Ou bien encore à une autre Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « L'amour n'est pas aimé ». Le monde est trop mêlé, mélangé, il est tiède finalement. Et il y a dans l'Apocalypse un anathème sur les tièdes et sur la tiédeur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Malheur aux tièdes, il vaudrait mieux pour toi que tu fusses froid ou chaud, mais puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Alors, Dostoïevski a repris ce thème dans Les démons ou Les possédés, avec son personnage de Stavrogin, qui est la figure du tiède. Voici ce que Camus dit à propos de Stavrogin. Stavrogin ne croit pas qu'il croit, et s'il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. Cela veut dire qu'il doute toujours. Alors, le banaliser aussi, c'est un tiède. Alors face à cette attitude, peut-être faudrait-il réhabiliter l'impatience, la sainte impatience selon l'expression de Valéry. La sainte impatience meurt aussi, dit-il dans le cimetière marin. Mais d'un autre côté, écoutons Kafka qui nous dit « Cette impatience justement nous empêche de trouver la solution à notre problème, la négligence ou la paresse ». Comme le dit Kafka, de leur côté, mènent à la banalisation, à la mort spirituelle. Donc, nous sommes d'ailleurs. L'homme, il est allogène, comme le disaient les gnostiques. C'est-à-dire qu'il vient d'ailleurs, allogène, l'allogénie de l'homme. Donc, ne confondez pas avec le lampadaire allogène, ça n'a rien à voir, ça s'écrit pas de la même façon. Donc, nous venons d'ailleurs, allogénie. La vie est un exil. Vita exilium est, la vie est un exil. Finalement, notre vraie patrie, nous l'avons perdue, est-ce que nous allons la retrouver? Malheureusement, la vie telle que nous la connaissons, elle est livrée à la finitude. Alors on voudrait que la vie soit faite de moments parfaits, faite seulement d'une addition d'instants sublimes, qu'elle soit comme un théâtre où chacun s'avance sur la scène et dise des paroles définitives, éprouve des sentiments définitifs, des sentiments purs et sans mélange. Par exemple, des mots comme amour, haine sont de très beaux mots qui font rêver, mais dans la réalité cela n'existe pas. Il n'y a que des individus imparfaits qui éprouvent ces sentiments ou ces apparences de sentiments. Ces derniers, ces sentiments, ne sont parfaits que dans les mots. Il n'y a que moi qui ai, moi qui aime, etc. Je ne suis pas à la hauteur des paroles que je prononce. Je ne suis pas à la hauteur de mon verbe, du verbe. Il n'y a que des vocables dans la vie, il n'y a pas le verbe. Le verbe est tombé en morceaux, ça aussi c'est une idée gnostique. Et ce moi imparfait qui parle, mais qui justement n'est pas au niveau de l'exigence, c'est comme une pâte molle qui s'allonge dans tous les sens, qui se liquéfie. C'est ce que Sartre dit dans La nausée. Alors au contraire, l'œuvre d'art me fait honte de mon existence. La rigueur, la nécessité, l'allure, le style, constant et continu, sont étrangers à la vie. La vie, elle n'a pas de style. Elle n'a pas toujours ce poids ontologique, cette dimension de nécessité, ou pour ainsi dire de destin, qui n'existe que dans l'art. Un film, dit François Truffaut dans La nuit américaine, c'est comme un train qui s'avance dans la nuit en suivant des rails luisants dans l'obscurité, dans une progression nécessaire que rien n'arrêtera. Et la vie, au contraire, elle est errante, labyrinthique. Seule l'œuvre connaît l'harmonie. Alors je prends un exemple. Nous avons un rendez-vous d'amour. Eh bien ce jour-là, justement, comme par un fait exprès, on a un bouton sur le nez. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est tout à fait possible. Les dermatologues nous le disent. Ils nous disent que le stress peut agir sur les sécrétions séborréiques, les sécrétions de la peau. Donc, si on a le stress de ce rendez-vous, ce n'est pas étonnant qu'on puisse avoir un bouton au milieu de la figure. Alors, ensuite, on va s'avancer théâtral vers le partenaire. Mais à ce moment-là, précisément, on va tousser, on va rougir, on va transpirer. Ce n'est jamais, ou au moins ce n'est jamais tout le temps, comme dans les livres ou dans les films. Et c'est bien dommage. Voilà, donc on peut dire que l'art met la vie en ordre, donne une dimension de destin à la vie. L'aventure, par exemple, n'existe pas dans la vie, hein. Elle n'existe quand elle est mise en mots. Si je dis j'étais là et puis quelque chose s'est produit, quelque chose est venu vers moi, bon, c'est une verbalisation de quelque chose, hein. Et à ce moment-là, celui qui m'écoute, il peut être fasciné par ce que je dis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est arrivé quelque chose, etc. Mais quand j'ai vécu la scène, je n'ai pas eu le sentiment de vivre une aventure. C'était d'une très grande banalité. Ce n'est que quand on raconte une scène qu'on a le sentiment véritablement de l'aventure, donc un sentiment de destin, hein, parce qu'on se dit « Ah oui, tu me le racontes, ça, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va suivre, et dis-moi alors ce qui t'est arrivé. » Mais quand il m'arrive quelque chose, eh bien, cela m'arrive, point. Et puis, si je ne mets pas ça en mots, je n'ai pas ce sentiment de nécessité. Alors, prenons le cas des films, par exemple, hein. Bon, dans le film, prenons le cas du baiser de cinéma. Vous voyez l'acteur et l'actrice qui s'embrassent, hein. Ensuite, vous avez un magnifique fondu, hein, un fondu au noir. Et puis, ou alors parfois, vous avez un travelling sur le feu de cheminée, le feu dans la cheminée, qui est une métaphore de l'étreinte. Et ensuite, les deux personnages se réveillent côte à côte sur l'oreiller, heureux. Donc il y a là une ellipse extraordinaire. Alors dans les films traditionnels, parce que maintenant l'ellipse elle est peut-être moins grande, hein, bon, mais l'ellipse faisait rêver, l'ellipse poétisait la vie. Entre le baiser et puis les deux têtes sur l'oreiller, le spectateur pouvait imaginer plein de choses. Mais le fondu n'existe pas dans la vie. Dans la vie réelle, il n'y a pas ce fondu au noir, hein. Dans le film de Woody Allen qui s'appelle La Rose Pourpre du Caire, l'héroïne jouée par Mia Farrow, hein, eh bien, elle aime les romans romanesques, elle aime les films romanesques, et à un moment, l'acteur descend de l'écran pour aller dans la vie, et puis l'acteur pose la question « Où est mon fondu ?» Mais il n'y en a pas dans la vie de fondu, hein. Dans la vie, il y a plein de sordides entre les deux étapes que j'ai dites, entre le baiser et le réveil après l'amour, tout le sordide qui peut se produire. Et alors, finalement, on se rend bien compte que la vie n'est jamais comme dans les romans, comme dans les films, comme dans les chansons. C'est pas ça, hein. La chanson, par exemple, en 3 minutes, elle va synthétiser toute une histoire. Mais dans la vie, il y a la contingence, hein, et il y a cette finitude dont je parlais. Je pense aussi à ce que de Flaubert écrit dans Madame Bovary. Voici ce qu'il dit. « Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par ces mots de félicité, de passion ou d'ivresse qui lui avaient paru si beau dans les livres. Et elle ne pouvait s'imaginer à présent que le calme où elle vivait fût le bonheur qu'elle avait rêvé. » Donc, comme Don Quichotte qui lisait les romans de chevalerie et qui s'imaginait que la vie pouvait répondre justement comme un écho ou un miroir à ses romans, Emma s'est rendu compte que la vie justement est décevante. Son mari l'a déçu, hein, parce qu'il était trop grossier, banalisé pour reprendre notre thématique. Et ensuite, ses deux amants aussi l'ont déçu. Rodolphe Boulanger, par exemple, le gentilhomme campagnard, parce qu'il s'est amusé d'elle. Il l'a chassé comme un gibier, en quelque sorte, et ensuite il l'a laissé tomber, comme on dit trivialement, et ensuite Léon, le clerc de notaire, qui aussi l'a déçu. Alors il ne lui reste plus à la pauvre Emma qu'à s'empoisonner à l'arsenic, hein, et donc quand elle a, juste avant de mourir, il y a dans la rue un mendiant qui passe et qui chante d'une voix éraillée, souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Alors Flaubert écrit, alors Emma se dressa sur son séant et elle se mit à rire comme si elle voyait les ténèbres éternelles dans un épouvantement. Mais ce rire n'est pas un rire de joie, c'est un rire diabolique, démoniaque, c'est un rire hystérique, un rire qui fait mal, hein. Donc Emma se rend compte que la vie n'est pas comme le roman, vous voyez. Alors, dans la vie, c'est ça, hein. Qu'est-ce que tout cela dont je n'ai pas rêvé? On reste seul. Il y a ce que l'on a désiré et que l'on n'a pas, et ce que l'on a et qu'on n'a pas désiré. Voilà. Donc, la vie se passe entre les deux pôles, vous voyez, en général, hein. Alors, Rimbaud a beau dire dans Chanson de la plus haute tour, hein, à que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Donc, ça, c'est la nostalgie d'une exaltation. Mais la réalité, c'est que on aspire peut-être à l'union des âmes, mais on se contente du contact des corps. Hein. Le temps nous entraîne où les corps se prennent, pour pasticher Rimbaud. Hein. Donc, à la différence de l'art qui met la vie en ordre, l'exaltation durable n'existe pas. L'homme n'est capable que d'effusion passagère. Il n'est pas toujours au même niveau. Et ça, c'est la rançon de sa finitude. On a bien cela dans le film, dans le récit de Thomas Mann, Mort à Venise, et dans le film qui en a été tiré, le film de Visconti, vous voyez. Donc, la beauté, elle est hors vie, hein. La vie, est toujours décevante. Et je dirais que le plus tragique peut-être, c'est qu'il n'y a pas de peine qui dure toujours, hein. Puisque, à défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires souffrances cesseront un jour. Un matin, on se réveillera, il fera beau, les oiseaux chanteront, on se regardera dans sa glace, et on s'apercevra que on a envie de vivre de nouveau. Après tant de désespoir, un beau jour, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini. Donc ce qu'il y a de plus amer, c'est ce que Proust appelait les intermittences du cœur. Hein. On aimerait aimer toujours, on se promet qu'on s'aimera toujours, on le jure, dans des cris qui sont très beaux. Regardez ce que dit Tibulle, le poète latin, dans ses élégies. Hein. « Et je ne voudrais pas pouvoir me passer de toi. » En latin, « nec te posse carere uelim ». Alors on voudrait éterniser ce sentiment, mais cela ne se passe pas de cette façon. Hein. Si c'est faiblesse que d'aimer, ça n'est une bien plus grande que de cesser d'aimer. Et La Rochefoucauld nous dit « Nous nous consolons souvent par faiblesse, des mots dont la raison n'a pas la force de nous consoler ». Alors vous voyez, moi j'aime bien par exemple visiter les cimetières. Qu'est-ce qu'on voit dans les cimetières? On voit des choses comme « regrets éternels » ou bien « le temps qui efface tout n'efface pas le souvenir », vous voyez. Eh bien, tout cela est faux, hein, tout cela est faux. Il n'y a pas de regrets éternels et le temps qui efface tout efface aussi le souvenir. Hein. Il n'y a pas de douleur qui un jour ne finisse. Alors moi, ce qui me fait toujours rire, c'est un certain enseignement de catéchisme que l'Église a repris pendant longtemps, qui nous menaçait de l'enfer et de peines éternelles que nous connaîtrions si nous allions en enfer, rôtir dans la grande fournaise. Eh bien, moi, je crois que l'enfer, nous le connaissons ici-bas, nous le connaissons dès maintenant. L'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles. Il n'y a pas de peines éternelles. Il y a une chanson de Brassens qui s'appelle « Le 22 septembre ». C'est l'anniversaire d'une histoire d'amour, mais c'est cette histoire d'amour est terminée maintenant, et la chanson se termine de la façon suivante. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous, et c'est triste de n'être plus triste sans vous. Vous voyez, donc c'est pire peut-être que de cesser d'aimer, plutôt que de souffrir même dans l'amour. Hein. Finalement, ça nous donne le sentiment du néant. Hein. Vous avez ça aussi dans la chanson très connue de Ferré, « avec le temps va tout s'en va, avec le temps tout s'évanouit ». Voilà, tout s'évanouit, tout disparaît. Le temps, en grec c'est chronos, en latin c'est Saturne, il dévore ses propres enfants. Enfin, il nous dévore. Voyez le tableau de Goya, Saturne dévorant ses enfants. C'est un ogre qui a dans sa bouche la dépouille ensanglantée d'un enfant qu'il va dévorer. Hein. Donc, il n'y a pas de chagrin qui un jour ne finisse. Hein. Et le temps m'engloutit minute par minute, comme la neige immense, un corps plein de roideur. Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur, et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. Là, je viens de vous réciter un poème de Baudelaire. Hein. Bon, ce temps qui nous engloutit. Alors, la passion, bien sûr, c'est un vent qui nous emporte, le vent de la vie, qui souffle où il veut, le vent Dieu ou l'esprit si vous voulez, mais le pire c'est de prévoir quand on est dans le vent la fin même du vent, hein. Alors là effectivement on a le sens, comme je l'ai dit, du néant. Voyez le livre d'Emmanuel Berle, Chronique d'un amour défunt chez Grasset, hein. Il y a l'amour puis il y a le désamour. Dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen on lit l'amour était tiré, il fallait le boire, hein. Et là, c'est la forme majeure de notre finitude. C'est pour ça que les récits d'amour ont besoin de miraculeux pour l'éterniser. Par exemple, le filtre, alors, P-H-I-L-T-R-E, le filtre que boivent Tristan et Iseu, qui éternisent leur passion. Hein. Mais dans la vie, on n'a pas de filtre. On n'a pas de filtre d'amour. Hein. On manque de filtre. Il y a une mort postulatoire du héros dans les histoires d'amour pour prévenir, quoi donc ? La mort de l'amour, précisément la mort de l'amour. Voyez l'histoire de Tristan, puisque les deux amants meurent. Voyez aussi Roméo et Juliette. Ou bien le grand petit film de Patrice Lecomte, Le mari de la coiffeuse, qui a été repris récemment sur Arte à cause de la mort de Jean Rochefort. Eh bien, l'héroïne, elle se suicide, justement, parce que elle préfère que son amant la voie jeune et non pas vieillie, enlaidie. Et alors elle a voulu tout perdre pour tout sauver, perdre ce sentiment, comment dire, la vie, hein, pour éterniser le sentiment lui-même. Alors voilà, vous allez me dire, mais là, c'est vraiment tous ces raisonnements sont très pessimistes. Et bon, est-ce qu'il faut voir la vie d'une façon si noire, hein? Bon, c'est effectivement la question. Je pense que on pourrait réfléchir alors, mais nous creuserons cela lors de la prochaine émission, à une solution qui serait non pas dans le juste milieu, hein, mais une solution pas mitigé, parce que là ça implique le juste milieu. Bon, je vais résumer ce que je veux dire et que je développerai lors de la prochaine émission. La vie, c'est comme une TSF, une radio. Hein. Donc, vous avez de temps en temps de magnifiques morceaux, Mozart, Bach, etc. Et à côté, vous avez autrefois, hein, vous aviez les parasites, les grésillements des ondes folles, vous aviez avant la FM, hein, les perturbations, etc. Maintenant, vous avez le viol de Mozart ou de Bach par le spot publicitaire, le jingle, vous voyez. Donc, mais dans la vie, on ne peut pas zapper. On ne peut pas zapper. On ne peut pas n'avoir que Bach ou Mozart. On est obligé d'avoir soit les grésillements et les parasites, soit les jingles, etc. Alors, il faut quoi ? Il faut prendre au sérieux ce qui en vaut la peine et il faut rire du reste. Voilà. Hein. Puisqu'on ne peut pas zapper, eh bien, profitons de Bach et de Mozart quand nous l'entendons, et le reste, il faudrait s'en moquer. Donc la vie, elle est faite finalement d'admiration, de « oh, que c'est beau », et puis de « bah, 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 ça, j'en veux pas ». Donc les hauts et les bas, si vous voulez, hein, le haut admiratif et le bas dépréciatif. Bon, c'est ça la vie. Alors écoutez, je vais vous quitter, on creusera cela lors de la prochaine émission. Je vous rappelle la parution de mon dernier livre, hein, qui reprend aussi les thèmes dont je parle pendant ces émissions, sur les chemins de la sagesse. L'éditeur, c'est www.bod.fr. C'est un livre qui peut lui être commandé et qui se trouve sur toutes les plateformes de vente sur Internet. Voilà, eh bien, bonne semaine. Rendez-vous à la prochaine émission pour essayer de trouver une solution à cette opposition entre l'exaltation et la banalisation. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.